Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est l'heure du magazine du midi sur Fréquence Mistral. Nous sommes en direct depuis Briançon et aujourd'hui nous allons parler énergie, efficacité énergétique, sobriété énergique et aussi démocratie participative. Depuis le début de l'année 2024, une réflexion collective sur la politique énergétique est menée dans les Hautes-Alpes. Ce projet est à l'initiative et coordonné par le pôle d'équilibre territorial et rural, dit PETR, du Briançonnais des Écrins et du Guillestrois Quéra. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous le président du PETR, Pierre Leroy. Bonjour Pierre.
Et bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour échanger sur ce projet intitulé « Dialogue territorial de points énergie du territoire ». Pierre Leroy, vous êtes président du PETR depuis 2014, vous avez plein d'autres casquettes. Vous êtes peut-être connu par nos auditeurs et auditrices puisque pour votre engagement dans une transition écologique, vous êtes militant de longue date, ancien maire depuis Saint-André depuis 12 ans, vous êtes toujours au conseil municipal. Et vous avez écrit un livre qui témoigne de votre engagement et des initiatives auxquelles vous avez contribué, Passage délicat, penser et penser le territoire, penser avec un E et penser avec un A, publié en 2021 aux éditions Actes Sud. Parler de ce livre me permet de faire une petite transition vers notre chronique littéraire hebdomadaire avec Anaïk de la librairie Voyage au bout des livres. On écoute tout de suite.
La sélection de la librairie Voyage au bout des livres.
Bonjour à tous et à toutes, c'est de nouveau Anaïk de la librairie. Je viens vous parler du nouveau livre de Delphine Minoui, Bad Gens. Delphine Minoui revient une fois de plus avec un de ses sujets préférés, l'histoire d'une femme puissante, proche de la littérature. Et cette fois-ci, c'est en Iran que ça se passe. C'est en 2022, à l'automne 2022, donc pendant la révolution des femmes iraniennes. Et on suit la jeune Bad Gens, surnommée comme ça par sa mère, qui veut dire « mauvais genre » en persan, ou « espiègle » ou « effronté ». Et c'est le roman de sa vie, de son adolescence, où qu'est-ce que ça fait d'avoir 16 ans, d'être une femme alors que son père désirait un garçon, un fils ? Quelle place lui reste-t-il lorsque son petit frère naît ? Et quel va être son parcours au collège puis au lycée en tant que femme dans une société quand même extrêmement patriarcale et complexe pour cette jeune femme. Donc c'est un livre qui est assez court, qui se lit très vite, c'est facile à lire, c'est parfait à mettre entre les mains notamment des adolescents, adolescentes, de toutes les personnes aussi qui ont envie de lire quelque chose de rythmé, qui se dévore et qu'on lâche pas. Le texte est simple et puissant. On retrouve aussi toute une culture de cette génération. Et ça fait un bien fou. J'espère qu'il va être encensé comme il le mérite. Ensuite, toujours en littérature, mais cette fois en format poche, c'est le livre Ultramarin de Mariette Navarro, qui est sorti en poche chez Kidam Éditeur. On vous en avait probablement parlé ou écrit au moins un petit texte quand il était sorti il y a 2-3 ans. C'est un roman surprenant où un équipage en pleine mer décide de se baigner, d'arrêter le cargo et de se baigner. Lorsque l'équipage remonte à bord, la capitaine se rend compte qu'il y a un homme de plus. Et dans ce texte hyper politique et intime, mais aussi très proche de l'étrange, on découvre les vies de ceux qui sont rendus à traverser la mer. Pour les tout-petits, on a le nouveau livre de Olivier Talec, Est-ce qu'il dort ? Évidemment, on adore Olivier Talek avec son petit écureuil qui apprend plein de choses aux enfants sur la vie. Et cette fois-ci, Poc et le champignon ont découvert le merle qui dort. Mais le merle ne bouge plus du tout. Il semble qu'il soit mort. Donc les deux amis vont s'amener à se poser énormément de questions sur qu'est-ce que la mort, comment rendre hommage, qu'est-ce qui se passe quand les gens sont partis, comment on s'en souvient et est-ce qu'ils vont se réveiller. C'était trop bien, franchement, ça fait du bien. Ensuite, en bande dessinée, une bande dessinée de Flore Vesco et Mayalène Goust qui s'appelle « D'or et d'oreiller ». C'est sorti chez Rue de Sèvres cette semaine. C'est une bande dessinée pour celles et ceux qui aiment les contes de fées et qui ont besoin que ceux-ci soient revisités. Donc on mélange à la fois des châteaux magiques et hantés, des maisons qui sont personnifiées, le conte de la princesse au petit pois ou de Cendrillon et des marâtres. On revient sur des figures hyper classiques du conte, un homme étrange, mystérieux, une jeune femme servante, maltraitée par une classe aristocratique plus haute qu'elle. Et qui va prouver par son intelligence et sa force qu'elle peut, elle aussi, avoir un rôle à jouer dans l'histoire. C'est parfois perturbant dans le dessin et ça peut être sombre, comme les contes de fées d'ailleurs peuvent l'être malheureusement beaucoup. Et ça fait énormément plaisir de retrouver ce genre de lecture des contes qu'on a eu l'habitude de voir. À bientôt!
Rattling. So excuse me, Mr. Butter, I'm a mister too. And you're giving Mr. bad name, Mr. like you. So I'm taking the Mr. from out in front of your name.
Il est midi 20, nous sommes en direct de Briançon pour ce magazine du midi avec notre invité Pierre Leroy, président du PETR, du Briançonnais des Écrins et du Guillestrois Quéra. Nous venons d'écouter la chronique littéraire d'Anaïk. Pierre, vous avez un livre, vous, qui vous a marqué, un livre de chevet ou une découverte récente à partager ?
Alors, celui qui est dans mon sac aujourd'hui, c'est « Devenir animal », un ouvrage de David Abraham. C'est plus un essai, c'est pas véritablement un roman, sauf qu'il y a aussi plein d'expériences de sa vie personnelle. C'est un philosophe américain et je suis totalement bouleversé. Je l'ai pas fini, hein, j'en suis aux trois quarts, mais c'est une révolution intellectuelle, c'est assez étonnant. C'est notre place en tant qu'humain, là au milieu de cet environnement, mais c'est très déstabilisant en fait la façon dont il justement redécouvre notre rapport au monde.
À découvrir. C'est facile à lire ou ça demande un peu
Moi, ça me demande de relire les phrases deux fois, mais, mais voilà, après, c'est toujours un challenge de lire.
Tout à fait. Mais si le sujet intéresse, à découvrir. Alors aujourd'hui, nous allons parler du projet de réflexion collective sur la politique énergétique coordonné par le pôle d'équilibre territorial et rural. Alors, celui du Briançonnais, Pays des Écrins et Guillestrois Quéra, donc regroupe ces trois communautés de communes que je viens de nommer, 36 000 habitants, 36 communes. Mais peut-être, pour commencer, pouvez-vous, Pierre, nous expliquer ce qu'est un pôle d'équilibre territorial et rural ?
Alors, c'est ce qu'on appelait auparavant les pays. Donc, cette histoire, ça date quand même de pas mal de dizaines d'années. Hein. Je crois qu'au départ, c'était la loi Pasqua. Donc, c'est vous dire. Ensuite, il y a eu la loi Voynet qui a transformé les pays progressivement. C'était au début une question d'aménagement du territoire. Et progressivement, la dimension développement durable, puis transition écologique s'est imposée au sein de ces territoires. Ce qui est très particulier, très intéressant, c'est que dans le fameux millefeuille administratif dont on entend souvent parler, là, c'est une feuille à part. Pourquoi ? Parce que c'est une démarche volontariste, là, en l'occurrence, de trois communautés de communes, de travailler ensemble. En fait, c'est pas obligatoire. Il y a des territoires où il n'y a pas de pays ou PETR. Et donc, là, en l'occurrence, les trois communautés de communes du Guillestrois Quéra, du Pays des Écrins et du Briançonnais ont choisi de travailler ensemble sur un certain nombre de sujets. Et donc, on porte des contrats qu'on signe avec l'Europe ou avec l'État français, qui amène beaucoup d'argent. En gros, quand les communautés de communes mettent 250 000 euros pour le fonctionnement du PETR, donc du pôle d'équilibre territorial rural du Briançonnais, nous, on va chercher 2 à 3 millions d'euros qui reviennent sur le territoire auprès des citoyens, des entreprises et des collectivités locales. Donc, il y a un gros intérêt financier. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est cette démarche volontariste de construire un projet en commun. Et c'est ça qui, pour moi, fait la particularité et la richesse.
Et ce sont des agents ou des personnes qui travaillent dans les communautés de communes et qui sont délégués ou des personnes à part ?
Non, on signe des contrats, comme je disais, avec l'Europe et avec l'État, parfois de 18 mois, mais parfois de 6 ans. Sur le Leader, par exemple, le programme européen Leader, c'est 6 années. Et donc, ces contrats nous permettent d'avoir des financements parfois pour en fait embaucher des techniciens compétents. Donc là, actuellement, il y a 7 ingénieurs qui travaillent donc au sein du pays Grand Briançonnais pour porter des projets très spécifiques. Là, on travaille par exemple sur la transition du tourisme avec le plan Avenir Montagne et sur d'autres sujets similaires. C'est toujours en rapport avec la transition au sens large.
Justement, vous disiez que vous aviez plusieurs projets pour faire face aux enjeux de la crise climatique, entre autres. Et ce projet Dialogue territorial énergie du territoire a débuté en 2024, début 2024, si je ne me trompe pas. Enfin, j'imagine que vous avez travaillé dessus bien avant, mais on en a entendu parler à ce moment-là. Dans quel contexte s'inscrit-il ? Dans quel contexte s'inscrit son émergence, finalement ?
Alors, comme le sous-titre de mon ouvrage le précise, c'est penser et penser le territoire, penser avec un E et penser avec un A, considérant que les élus, en quelque sorte, sont des soignants de territoire. Comment on peut prendre soin d'une population et d'un territoire. Là, aujourd'hui, on le voit bien, hein, ce qui se passe, en particulier depuis ces derniers mois, mais c'est pas récent non plus. On est confronté à un cumul de crises, à la fois la crise climatique, évidemment, qui touche d'ailleurs particulièrement les zones de montagne, mais aussi une crise démocratique, ça c'est clair, on le vit vraiment, puis une crise de biodiversité, puis une crise sociale. Donc en fait, il y a un cumul d'un certain nombre de crises et on peut s'interroger sur un territoire rural comme le nôtre et de montagne, comment on peut faire pour justement répondre à ces sujets-là. Et on considère que les besoins primaires des populations sont une porte d'entrée, si on y répond, qui permet de résoudre l'ensemble de ces crises. En zone rurale, moi je suis persuadé que nous avons on a les solutions pour justement résoudre ces problèmes-là. Donc faut-il les mettre en œuvre ? Alors c'est complexe au sens de la complexité, parce que tout est entremêlé. C'est un peu compliqué aussi, parce qu'il faut en effet véritablement faire des choix politiques. Il faut avoir le courage politique de mettre en œuvre tout ça. Et l'objectif, c'est un peu de transformer aussi la vision du monde de la société. Donc ça passe, on en est persuadé, par justement la co-construction des politiques publiques avec la population. On ne peut plus, c'est terminé, imaginer que les décisions puissent venir de façon verticale s'appliquer au territoire. On en voit les conséquences, c'est souvent dramatique, et puis surtout, ça révèle en fait des oppositions locales. C'est partout en France aujourd'hui. Ces décisions verticales sont très très mal vécues par la population. Donc là, il y a un sujet démocratique, très clairement. Je suis persuadé, on l'a expérimenté à plusieurs reprises, régulièrement sur le PETR, mais on l'a fait aussi sur la commune depuis Saint-André, c'est que si on sollicite les citoyens, si on leur donne la parole, si on travaille avec eux, eh bien finalement on obtient des résultats assez étonnants. Faut-il encore faire ça avec conscience, en s'entourant de gens compétents, parce que ça s'improvise pas. La co-construction et la concertation ne s'improvisent pas, elles nécessitent des gens formés et qui sont là sur le territoire pour nous aider, nous les élus bénévoles, à mettre en œuvre ce dialogue territorial. Donc voilà, en gros, c'est ça dont il s'agit. Comment arriver à travailler avec nos concitoyens, avec les socioprofessionnels, les associations, les élus, l'ensemble de ce territoire, pour essayer de se projeter et d'avoir un projet territorial qui répond vraiment aux enjeux. C'est compliqué, on n'a pas tous la même vision du monde. Pour autant, on est tous attachés à notre territoire, en particulier dans le Briançonnais.
Oui,
c'est très clair. Dans le Briançonnais, nos paysages, notre environnement, le territoire, tout simplement, ce bassin de vie, on le voit. Tout le monde est extrêmement attaché à ce territoire. C'est un territoire très attractif. Les gens ont fait le choix pour la plupart de vivre ici. Et donc, évidemment, ils y tiennent. Donc, justement, c'est intéressant. Comment on peut les mobiliser pour imaginer un avenir qui soit désirable et qui répond surtout aux enjeux des différentes crises qui nous enserrent.
Justement, on va décrire un petit peu toute cette démarche que vous avez mise en place, puisque vous faites appel à des scientifiques, on va y revenir. Ça, c'est l'aspect démocratique qui est un des aspects principaux de ce projet, mais qui vise quand même à trouver des orientations pour développer une politique énergétique, mais qui a déjà été réfléchie dans d'autres projets. Est-ce qu'on pourrait aussi évoquer le contexte au niveau de l'énergie, de ce qu'il en est aujourd'hui, et dans quel cadre ce projet s'inscrit dans peut-être d'autres initiatives locales ?
Alors tout à l'heure, je parlais de penser le territoire, c'est-à-dire répondre aux besoins primaires des populations. Alors certains connaissent la pyramide de Maslow ou d'autres représentations qui nous permettent. C'est quoi les besoins primaires ? C'est boire. C'est pas garanti en France partout, ni en quantité ni en qualité. C'est manger. C'est pas du tout garanti en France. L'autonomie alimentaire de nos territoires en France, elle est de 2 jours, 3 jours. C'est-à-dire que pendant 360 jours, notre bouffe est dans des camions. Donc clairement, c'est pas garanti. Manger bio et local sur les territoires. Mais se loger l'est pas non plus. Avoir suffisamment d'énergie, on qu'on connaît la précarité énergétique, en particulier dans les zones de montagne et d'altitude où il fait froid, on a une part importante de notre population en région PACA qui est en précarité énergétique. Donc ce besoin n'est pas garanti non plus. Donc voilà, comment on peut répondre à ces besoins primaires des populations en travaillant de façon démocratique sur ce sujet-là. Donc on s'est emparé en effet du sujet de l'énergie. Ça fait déjà, comme vous le dites, un certain temps qu'on travaille sur la transition énergétique. Là, par exemple, sur les 36 communes du territoire, 31 communes éteignent l'éclairage public entre minuit et 5 heures, approximativement. Donc il y a eu déjà des travaux sur la sobriété énergétique. On a réhabilité sur les territoires une centaine de bâtiments publics au niveau thermique pour baisser les consommations d'énergie. Heureusement qu'on l'a fait, parce qu'après on a vu l'augmentation du coût de l'énergie. Des communes s'en sont satisfaites parce que préalablement elles avaient déjà anticipé cette affaire. Donc ce sujet de la transition énergétique au sein de la transition écologique est déterminant. Il est question de quoi ? Il est question de faire preuve de sobriété, d'efficacité, puis de production d'énergie renouvelable. Notre territoire, je l'ai dit tout à l'heure, est fragile. Il a des paysages hors du commun, sa biodiversité est fragile, on y est tous attachés. Comment on peut trouver un chemin au milieu de tout ça, sachant que on a aujourd'hui en production d'énergie renouvelable des conflits, c'est-à-dire que des producteurs d'énergie, des collectivités se trouvent confrontés à un type de population, et je dis pas que c'est péjoratif, des environnementalistes, des kayakistes, des pêcheurs, qui peuvent, eux, dire « Attendez, ce que vous faites n'est pas pertinent pour le territoire, parce que l'impact est trop important. » Je pense à l'hydroélectricité, mais ça peut être aussi sur le photovoltaïque au sol, ça peut être évidemment sur l'éolien. Donc, il y a un vrai sujet de travail, de concertation pour savoir qu'est-ce qu'on désire sur notre territoire. On consomme tous de l'énergie. Donc, comment on peut baisser nos consommations d'énergie ? Malgré tout, il va falloir qu'on produise de l'énergie renouvelable pour être autonome en énergie. Et ça, c'est d'ailleurs l'objet de notre plan climat. On a ce qu'on appelle un PCAET, Plan Climat Air Énergie Territoriale. La communauté de communes du Briançonnais en est l'obligé. C'est-à-dire que toutes les collectivités en France de plus de 25 000 habitants doivent avoir un PCAET. Nous avons un PCAET, vous pouvez aller voir sur le site internet du Pays Grand Briançonnais. Il y a un diagnostic territorial. Et puis, il y a des projets d'action qui sont prévus pour aller vers l'autonomie énergétique du territoire. Et on en est loin. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que les citoyens, les 36 000 habitants de ce territoire, soient éclairés, c'est le cas de le dire, mais éclairés intellectuellement, armés, en ayant les connaissances suffisantes pour comprendre l'enjeu. Combien on consomme ? Combien on produit ? Quel est le différentiel ? Et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut prévoir ensemble comme sobriété individuelle et collective pour baisser nos consommations d'énergie ? Et ça, on a un travail considérable à faire à ce sujet-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va accepter de produire comme énergie renouvelable, sachant que toutes les énergies renouvelables ont un impact ? Là-dessus, c'est clair. Mais il va falloir faire des compromis. Et où on met ce curseur en termes de sobriété et en termes d'efficacité, puis de production d'énergie. Ça peut paraître comme étant des efforts. Je le vois plus comme un challenge. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu. Comment chez moi, je peux m'amuser à baisser ma consommation d'énergie ? Aujourd'hui, ma maison, par exemple, produit 3 fois l'énergie que je consomme. Je me suis amusé depuis 20 ans à baisser mes consommations, et puis à produire de façon responsable l'énergie que je consomme. Et ça fonctionne. Donc individuellement, on peut tous faire ce jeu-là. Puis collectivement, et là aussi, il peut y avoir des conflits. C'est-à-dire que quand il est question d'éteindre l'éclairage public, tout le monde n'est pas d'accord. Donc quels sont les arbitrages qui sont bons pour nous tous ? Comment on peut construire un projet collectif désirable ? Il n'est pas question d'intérêt individuel, là. Il est question d'intérêt collectif. Et pour ça, il faut qu'on soit suffisamment informé de choses fiables. C'est pour ça qu'on a besoin des scientifiques pour que le débat parte sur des données qui soient réellement mesurées et fiables.
Justement, j'allais revenir sur cet aspect scientifique pour faire tout ça, pour trouver ces orientations dont vous parlez avec les habitants, habitantes, acteurs, actrices du territoire. Vous faites appel à des scientifiques, à un appui scientifique. Comment travaillez-vous avec eux? Alors, on va rappeler, vous travaillez avec l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, mais aussi l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique. Alors, pourquoi ces deux organismes et comment travaillez-vous avec eux?
Alors, en effet, ils n'ont pas le même rôle. L'INRIA, là, en l'occurrence, les scientifiques qui bossent avec nous, l'INRAE, sont des scientifiques qui sont spécialisés, qui viennent des sciences humaines, ceux-là, et sciences sociales, et qui sont spécialisés sur les conflits d'usage et sur la concertation. Donc là, il y a des scientifiques qui bossent dans une quarantaine de pays du monde sur ces conflits d'usage, souvent en rapport avec l'eau d'ailleurs, en Tunisie, en Amérique du Sud, en Nouvelle-Calédonie. Donc ces scientifiques ont l'habitude et ont éprouvé des systèmes de concertation. Comment mettre les gens ensemble, qui habituellement se voient au tribunal ou sont en conflit, comment les mettre autour d'une table pour bosser ensemble? Donc ça, c'est le premier groupe de scientifiques. Et le deuxième, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plus là des scientifiques des sciences dures, donc c'est l'INRIA, qui bossent sur les calculs de flux. Là, il est question d'énergie, donc le flux d'énergie entrant sur notre territoire, sortant du territoire, quels sont les calculs de flux de nos consommations, de nos productions d'énergie. Et là, on a besoin de choses concrètes, mesurables, fiables, éprouvées, pour qu'on ne dise pas n'importe quoi. Et que sur le débat, il soit vraiment efficace et satisfaisant. Donc on a ces deux types de scientifiques qui nous permettent aussi, nous, de prendre du recul. On est sur une commande, on a souhaité ce travail-là, mais nous, c'est pas nous qui pilotons ce travail. On est là pour aider, mettre en musique cette affaire, mais on a surtout besoin des scientifiques, c'est eux qui sont vraiment les mains dans le cambouis pour tenter de faire que ce travail de concertation soit le plus efficace et qu'ils répondent aux enjeux. Donc, ils ont proposé, en effet, un tirage au sort. Et là, en l'occurrence, il y a un comité de pilotage aussi avec des gens du territoire qui ont validé un tirage au sort sur liste électorale. On est 36 000 habitants. On a fait, dans la pratique, deux tirages au sort de 250 habitants pour créer un panel. Donc ça, c'est un groupe de personnes, de 25 personnes, qui ont une attention particulière auprès... On a une attention particulière auprès d'eux, c'est-à-dire qu'ils sont informés, formés, ils ont des visites sur site, ils ont les scientifiques sont auprès d'eux pour leur donner des éléments de compréhension, et ce panel travaille justement pour déterminer leur choix, en tout cas, de ce groupe-là.
Pourquoi 25?
Parce qu'il faut bien choisir. Ah. Et il semble que 25, pour les scientifiques, était la masse critique qui est intéressante. C'est pas trop ni trop peu pour pouvoir vraiment travailler ensemble. Mais à la limite, c'est pas tant ce groupe, il nous intéresse, mais ce qui nous intéresse surtout, je dirais, c'est l'agora, ce qu'on appelle l'agora, c'est-à-dire... Nous tous, les 36 000 habitants du territoire. Le panel travaille en ce moment, mais nous, on fait surtout appel aux 36 000 habitants du territoire qui sont sollicités là, dès aujourd'hui, sur plein de sujets, pour eux aussi être formés, pour eux aussi être éclairés, pour eux aussi avoir une information qui leur permette de se forger un point de vue.
Et comment faites-vous ça ?
Donc on a commencé, si vous allez sur le site internet du PETR, vous avez déjà des webinaires, il y en a je crois 3 ou 4 là qui sont déjà en ligne, où là vous avez des informations par des spécialistes, à la fois des locaux, des régionaux, des nationaux, des gens assez pointus. Là le dernier c'était sur les paysages, c'est des gens très pointus sur ce sujet du paysage. Donc à chaque fois on a des webinaires qui permettent, que vous pouvez regarder n'importe quand, qui vous permettent de découvrir, et en général tout le monde nous dit « waouh, c'était passionnant ». Donc ça se fait en présentiel à des heures données, mais ça peut se faire a posteriori avec en ayant cliqué sur le webinaire. Donc on a ces webinaires, on a aussi des visites sur site. Là, on avait samedi dernier une visite sur site, on est allé au bord de la Durance pour voir les impacts environnementaux de la production d'énergie renouvelable, par exemple. Voir qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qui se passe avec des spécialistes. On a eu aussi une intervention sur le solaire. Et là, on découvre qu'il y a plusieurs systèmes solaires. Le bioclimatisme, le solaire thermique, le solaire photovoltaïque. Alors que souvent, on ne parle que du solaire photovoltaïque. Mais en fait, non, il y a plusieurs systèmes solaires avec des avantages, des inconvénients. Donc, on a eu aussi une formation sur l'hydroélectricité. Donc, on est allé sur place visiter des sites hydroélectriques. Donc là, ça permet aux gens de voir, de palper, d'avoir des connaissances et petit à petit de se forger un avis. Et c'est ça qui nous intéresse.
Et comment recueillez-vous cet avis, justement, après ?
Alors, ça va se faire dans... Le travail commence, hein. Il a commencé depuis longtemps, dans le sens où, au début, on a fait un premier travail avec les acteurs du territoire qui sont concernés. Donc, les kayakistes, les pêcheurs, les environnementalistes, les producteurs d'énergie, les élus. Avec tout ce petit monde-là, on a discuté sur le process de concertation. Comment on va faire ? Parce que ça, c'est déterminant. Vers quoi on va et comment on fait ? Là, ils se sont mis d'accord. Alors, c'est bien parce qu'habituellement, ils n'étaient pas nécessairement d'accord. Mais en tout cas, sur le comment faire, ils se sont mis d'accord. On a 50 pages de synthèse sur ce travail-là. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on est rentré vraiment dans le dur, en tout cas dans le concret, avec le panel et avec l'Agora. Et donc là, aujourd'hui, on multiplie les interventions pour la connaissance. À la suite de ça, mais ça commence déjà, on a des débats, on a des discussions, on a des questionnements. On tente, avec les scientifiques surtout tentent de donner des réponses à ces questions. Et petit à petit, on va rentrer véritablement dans la discussion et le débat pour petit à petit faire sortir un point de vue consensuel, si possible, en tout cas une orientation.
D'accord. Et cela se fait lors de discussions en commun avec tout le monde,
tout à fait.
Prise de questions, réponses.
Exactement.
D'accord. Et donc là, j'imagine, plusieurs acteurs du territoire viennent, interviennent pour avoir différents points de vue, pour essayer d'éviter les contentieux dont on parlait tout à l'heure. Et les élus, alors, puisque ce seront eux qui seront concernés, c'est eux qui prendront, entre autres, les décisions politiques publiques,
oui.
Comment les intégrez-vous ?
Alors, tout le monde est concerné, et les élus, ce sont des citoyens. Et les citoyens aussi sont des consommateurs d'énergie et des producteurs d'énergie.
Ils sont présents,
donc,
alors.
En fait, tout le monde est concerné. Donc, systématiquement, il y a des élus présents. Je pense à samedi dernier, il y avait des élus lors de la visite sur site. Alors, c'est pas toujours les mêmes, suivant les événements. Dans les webinaires, il y a des élus. Il y a des élus qui sont plus présents, d'autres beaucoup moins. Les scientifiques vont contact aussi, directement avec les élus. Ils ont pris rendez-vous. Hein. Donc, ils vont voir les élus dans leur bureau pour justement discuter, les faire parler, faire remonter des sensations et des points de vue. Donc on sollicite les élus comme les autres, mais encore une fois, les producteurs d'énergie ne sont pas nécessairement des élus. Donc tout le monde est concerné. En tant que consommateur, on a une expertise quant à l'énergie, parce qu'on appuie sur le bouton de la lumière. On consomme tous de l'énergie, donc on est tous en quelque sorte un petit peu experts de ce sujet-là. Donc il s'agit vraiment de mettre tout le monde autour de la table. Les élus, évidemment, ont une place importante. Donc il y a entre autres une conférence qui est prévue, c'est la conférence des maires qui a lieu tous les ans. Et là, en l'occurrence, c'est le 6 décembre. Le 6 décembre, les élus seront sur ce sujet sollicités. Et donc ils vont avoir, eux aussi, une formation, des informations. Le sujet plus particulier qu'on abordera avec eux, c'est le process de construction de projets d'énergie, et puis c'est aussi l'innovation financière. Parce qu'en fait, là, le sujet qu'on aborde, c'est quelle énergie sur nos territoires, tenant compte des paysages, tenant compte de la biodiversité et tenant compte des finances locales. Les élus, et j'en fais partie, leur objectif, c'est quand même de trouver de nouvelles ressources financières. Parce que la baisse des dotations de l'État, les nouvelles compétences parfois non financées font que les collectivités locales cherchent des ressources. La production d'énergie renouvelable fait partie des solutions. Donc c'est tout à fait légitime que des élus s'interrogent à ce sujet-là. Donc en fait, et c'est souvent un impensé, les finances locales. Donc là, on remet ce sujet sur la table pour que les citoyens soient conscients aussi de ces impératifs et de quelque part même d'épée de Damoclès au-dessus de la tête des élus. Donc, faut qu'on mette tout ça. C'est pour ça que c'est complexe. C'est complexe, c'est compliqué. Mais l'intérêt, c'est qu'on en parle. Il ne s'agit pas de mettre un mouchoir dessus. Il faut au contraire que tout le monde se sente concerné et que chacun s'aide mutuellement et qu'on tente de trouver des sorties qui sont intéressantes. Et sur les finances locales, la Banque des Territoires nous accompagne. Il y a un certain nombre d'organismes qui nous accompagnent où là, peut-être, il faut faire preuve d'innovation pour pouvoir monter des projets ensemble et pas séparément. On peut aider les collectivités à construire des projets, peut-être moins de projets, mais en tout cas mieux penser, mieux financer pour le local. Donc ça, ça fait partie des pistes sur lesquelles, au milieu de tous ces débats, c'est une des pistes qui est proposée aux élus le 6 décembre.
C'est un vaste sujet, puisque la question des financements, notamment des productions d'énergie renouvelable, peut créer tension avec les populations locales. Mmh. Ça a été vu dans le 04 notamment, avec justement cette épée de Damoclès qui pousse parfois certains maires à accepter des projets. Et c'est là qu'on voit que les enjeux sont pas les mêmes et que ça peut créer conflit. Et donc c'est intéressant ce processus. Cet espace plutôt créé de discussion.
Oui, puis il y a besoin véritablement d'un accompagnement. Il faut comprendre, les élus, c'est des bénévoles citoyens. Ils ont aussi besoin qu'on les aide, qu'on leur donne les outils, qu'on leur permette d'avoir de la connaissance pour éviter des erreurs, pour optimiser les choses et pour faire que tout le monde soit conscient des enjeux. Donc, il y a un vrai besoin et on va tenter de mettre notre pierre à cet édifice de la connaissance. Donc, le 6 décembre, on compte sur tous les conseillers municipaux du territoire, des 36 communes et des maires, évidemment, mais tous les conseillers sont... Et puis, les citoyens sont invités, d'ailleurs, lors de la conférence des maires. Donc, ça sera un moment important.
Donc un espace de discussion, de rencontre, une participation citoyenne. Nous avons également parlé du contexte de ce projet. Peut-être maintenant, j'aimerais parler plus de l'aspect données, réflexion sur la question de la politique énergétique sur notre territoire. Il y a donc des objectifs d'orientation. Quels sont les livrables qui sont attendus à la fin de ce projet ?
Alors ça, c'est une question intéressante, c'est une question particulière, complexe, parce qu'on parle de concertation. Si on savait où on allait, ça ne serait pas de la concertation. Et ça, c'est difficile à appréhender, cette affaire-là. C'est-à-dire que tout le monde nous a dit, mais attendez, nous, on a envie de savoir où on va. Sinon, on ne s'engage pas dans cette affaire. Et nous, on leur dit, bah oui, mais si on sait quel va être le résultat, ben, en fait, c'est pas de la concertation, c'est qu'on aura déjà prévu les choses. Et là, en l'occurrence, on ne sait pas où on va. Donc, on vous demande d'avoir une certaine confiance dans ce processus de concertation. On ne dit pas, on reprendra sans filtre les conclusions de cette concertation, comme ça a pu être dit à d'autres moments.
C'est une de mes questions, tout à fait.
Par contre, nous, on s'engage quand même à ce que tout ce qui est dit soit vraiment enregistré et fasse partie du débat. Plus il y aura de monde, plus il y aura de légitimité, plus les gens vont participer, plus ça aura évidemment un poids vis-à-vis justement à la fois des opérateurs énergétiques, à la fois des élus, mais à la fois aussi des associations environnementales, etc., etc. Plus il y aura de monde, plus ça aura du poids. Donc ça, c'est une première chose. Après, on peut imaginer que cette concertation aboutisse à des propositions très concrètes sur des dispositifs à mettre en œuvre pour justement faire que ce travail puisse avoir du poids demain. Donc ça, on va voir, il commence déjà à y avoir des propositions dans les discussions en rapport avec ça. Mais à ce stade, on ne peut rien affirmer parce qu'encore une fois, ça va dépendre de la concertation.
En amont, ou même peut-être en aval de cette concertation, il y a quand même les scientifiques qui sont présents et qui vont chercher des données concrètes.
Oui, mais c'est pas les scientifiques qui vont dire « il faut que vous fassiez ça demain ». Non, eux les scientifiques, ils sont là pour faire remonter véritablement auprès des 36 000 habitants leur point de vue de ce qu'il faut faire. Et ensuite, si on a une légitimité suffisante, eh bien on fera. On a en quelque sorte une obligation de moyens. On n'a pas une obligation de résultat parce qu'encore une fois, ça ne dépend pas de nous. Enfin, ça dépend de moi, mais moi je suis un parmi 36 000. Donc, qu'est-ce que les 35 999 autres veulent pour leur territoire ? À eux de nous le dire. Et là, on construira un véritable projet.
Et pour réfléchir ensemble, vous avez, vous le disiez tout à l'heure, plusieurs quand même thématiques, plusieurs axes pour comprendre, voir comment réfléchir à ces questions. Donc vous parlez de sobriété, de production d'énergie. Peut-être on peut parler déjà de la sobriété. Comment calculer ou comment estimer une sobriété ? Comment demander l'avis des acteurs et actrices, des habitants de ce territoire ?
Ben, sur la sobriété, là, tout dépend de quoi vous parlez. Mais là, en l'occurrence, on connaît la consommation du territoire. On a des données Enedis, on a un certain nombre, et justement c'est les scientifiques qui bossent là-dessus pour extraire ces données et pour les rendre compréhensibles. Donc là, c'est tous les flux dont je parlais. Donc on va pouvoir avoir des informations très fiables, et de ce fait là on va aussi pouvoir pressentir quelles seront les capacités à baisser nos consommations dans certains domaines plus que dans d'autres. Donc, à nous de voir. Et quand on parle d'énergie, il faut aussi que les citoyens soient bien... De quoi on parle quand on parle d'énergie ? Rien que ça, déjà. Il faut savoir que la mobilité a évidemment une place prépondérante. C'est pas que la consommation d'énergie dans ma maison. C'est comment je me déplace. Et souvent, la place de la mobilité dans cet ensemble de consommation énergétique, c'est 30 à 40%. Donc, c'est considérable.
Donc c'est là, le principal.
Oui, vraisemblablement. On va voir avec les calculs de flux.
Calculs n'en sont pas finis.
Mais en tout cas, c'est avec le logement, de toute façon, la mobilité et le logement, c'est évident, c'est les deux consommations principales. Donc il faut qu'on affine tout ça et qu'on donne les éléments de compréhension qui pourront permettre de changer de pratique. Donc peut-être se déplacer autrement. C'est des messages aux citoyens, c'est des messages aux élus aussi, qui aujourd'hui, sur les trois communautés de communes, quand même, les trois communautés de communes ont pris cette compétence mobilité. Comment elle se développe concrètement pour permettre aux citoyens de changer de pratique. Voilà, c'est tous ces débats qui sont passionnants, en fait, parce que ça touche notre quotidien.
Oui, c'est très concret.
Ah ben, pour le coup, oui.
Et au niveau de la production d'énergie, il nous reste peu de temps, mais peut-être quand même quelques mots. Qu'est-ce qu'on produit aujourd'hui ? Est-ce que vous avez déjà les chiffres comme énergie et comment sur notre territoire ?
Alors, je ne les ai pas là, oui, mais on a évidemment les chiffres de la production. Ça, c'est très clair. En gros, on sait que... Alors, dans l'énergie, il y a une partie, c'est l'électricité. On sait qu'on produit, par exemple, 100% de l'électricité qu'on consomme sur le pays Grand-Briançonnais. Mais à quel pas de temps ? Là, en l'occurrence, c'est un pas de temps annuel. Et on le sait, les énergies renouvelables sont intermittentes, donc elles produisent beaucoup plus à certains moments de l'année, ou de la journée d'ailleurs, parce que le solaire, la nuit, ça marche pas. Donc, et c'est là où ça, le détail est intéressant, parce que là, on se rend compte que oui, peut-être on produit 100% de l'électricité, uniquement de l'électricité, pas de l'énergie, sur notre territoire à l'année, mais au pas de temps mensuel ou au pas de temps journalier, pas du tout. On est en fort déficit de production. Donc comment tout ça ? Alors derrière, il y a aussi le stockage qui est intéressant. Ça amène plein de questions passionnantes. Faut pas être effrayé. C'est juste passionnant. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est que les gens puissent être attirés par cette affaire qui les concerne dans leur quotidien et puissent comprendre quelle est leur place, quel est leur pouvoir d'agir aussi. Parce que finalement, c'est ça. Souvent, les citoyens sont totalement démunis face à la transition écologique parce qu'ils ignorent leur pouvoir d'agir. Là, on va leur redonner du pouvoir d'agir.
Surtout sur les questions d'énergie, qui sont très, très complexes, comme vous le disiez. Et on n'a pas encore de solutions concrètes, d'exemples qui existent. On est en plein dedans, donc tout ça est à voir. J'aurais peut-être une question sur les énergies renouvelables qui seraient envisageables de développer. Cela pose aussi question, vous parliez d'un webinaire sur les paysages. Peut-être un mot sur comment vous formez les personnes qui veulent participer à ces enjeux-là. Qu'est-ce qui est pris en compte ?
Il faut regarder le webinaire.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Le webinaire est fait pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, oui, on a des spécialistes, souvent des scientifiques, mais pas que, qui expliquent ces données-là. C'est quoi le paysage ? Donc, je ne vais pas vous faire une conférence là sur le paysage. Le webinaire est fait pour ça. Donc, c'est pour ça qu'on incite les gens à aller voir, parce qu'on découvre un monde, en fait. Et c'est passionnant.
Eh bien, ce sera un des mots de la fin, puisqu'il va bientôt falloir finir cette émission. Mais en tout cas, on peut retrouver toutes les informations sur le site internet du PETR. Donc PETR du Grand Briançonnais, du Pays des Écrins et du Guillestrois Quéra.
Il suffit de taper Pays Grand Briançonnais et on tombe sur le site internet qui est très bien fait, où il y a beaucoup d'informations. Entre autres, il y a une information sur la future conférence qui aura lieu au Théâtre du Briançonnais, mais qui sera aussi en relais avec une quinzaine de villages. C'est-à-dire qu'on est en train d'organiser, comme on l'avait fait sur 36 communes en transition, pour éviter aux gens de se déplacer à Briançon, parce que à Briès, Ristola ou la Grave-Villard-d'Arène, ça fait loin. Et on veut que les gens vraiment s'intéressent. Donc en fait, on va faire des relais dans les villages. Les gens seront informés de ces relais dans les communes qui sont prêtes à recevoir ces éléments-là. Ils pourront être connectés directement et poser leurs questions d'Abriès Ristola jusqu'aux scientifiques qui vont prendre la parole au Théâtre du Briançonnais.
À quelle date?
Je ne sais plus, c'est au mois d'octobre, le 18 octobre. Enfin, j'ai peur de faire une erreur.
Sur le site internet, en tout cas, c'est indiqué, effectivement, je ne l'ai plus non plus. Et quand seront juste rendus les résultats? Est-ce qu'il y a déjà une date de fin?
Voilà, on sait que là, il nous reste un travail de 12 à 15 mois. Donc, c'est sur du long terme. Mais de toute façon, ces sujets-là nécessitent de prendre le temps. Donc voilà, c'est pour ça que le panel sait qu'il s'est engagé sur une quinzaine de mois. On rémunère les déplacements, on fait pour que les gens y trouvent leur compte et puis surtout qu'ils sortent satisfaits de cette formation.
Merci Pierre Leroy pour cet échange. Donc président du PETR, du Briançonnais des Écrins, du Guillestrois Quéra ou du Pays du Grand Briançonnais comme vous dites. Merci d'être venu et il est temps donc pour nous de remercier également les auditeurs et auditrices pour votre écoute. Dans notre magazine demain mercredi, vous retrouverez Nathalie de Manosque à 12h10 avec comme invité plateau l'Office du tourisme de Gréoux-les-Bains pour annoncer les événements d'Octobre Rose avec aussi une sélection musicale consacrée à cette même thématique. Bien sûr, toujours les chroniques hebdomadaires de Nathalie avec notamment Confidences de confinés. Belle journée à toutes et tous. Merci. Oh,
Plongez dans l'histoire vivante lors des Journées européennes du patrimoine les 21 et 22 septembre. À Man, au musée de Salagon, vivez la transhumance avec visites, ateliers, conférences et spectacles pour toute la famille. À Quinçon, au musée de préhistoire, ne manquez pas le spectacle Nuit sans lune pour petits et grands, ainsi que des animations interactives pour explorer la préhistoire autrement. Deux musées pour un week-end de découvertes immanquables. Entrée libre le week-end du 21 et 22 septembre. Plus d'infos sur musépréhistoire.com ou musée-de-salagon.com.
Du 25 au 29 septembre, au cœur de Manosque, c'est la 26e édition du festival Les Correspondances. Retrouvez sur Fréquence Mistral les interviews et reportages dans les matinales et les magazines pendant toute la durée de l'événement. Et samedi 28 septembre, de 10h à 16h, Fréquence Mistral sera en plateau extérieur, place des Marchands, pour recevoir des auteurs, des représentants d'associations, des membres de l'organisation et des lectrices et lecteurs. Un rendez-vous à ne pas manquer sur Fréquence Mistral.
Briançon, Castellane, Gap, Digne, Marseille, Manosque, Sisteron, toute l'équipe de Fréquence Mistral vous souhaite la bienvenue sur nos ondes.
Toi tu as grandi sans rêver de sirène, ton père te mettait des gifles et tu pensais je t'aime. Toi tu as toujours refusé qu'on t'apprivoise, et d'ailleurs on dit de toi que tu n'es pas courtoise. Toi tu t'es occupée de tous tes frères et sœurs, de ta mère aussi d'ailleurs quand elle était en pleurs. Toi tu as aimé un homme passionnément, mais tu ne sais pas pourquoi il est parti comme le vent. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine. Musicienne, ça fait des années qu'à l'école tu t'entraînes. Lui, il t'a dit, je suis désolée, mais à de ces malheureux, on ne peut pas plonger. Alors tu t'es arrêtée et tu l'as oublié. Mais tout au fond de toi, la musique, tu l'as gardée. Et parfois tu l'entends tout bas te chanter. Un air que la nuit, en secret, tu vas murmurer. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait. Depuis toujours, tu sens que c'est un décorum. Toi, tu as décidé que pour être libre, tu n'aurais pas d'enfant, ce serait ton équilibre. Et pour toutes celles dont les complexes vies ne seront racontées qu'autour d'un verre à minuit, que les voix s'élèvent, qu'on prenne les arènes, et que dans la nuit s'élève le chant des sirènes. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine.
Musicale.
Wow, wow.
La DJ et productrice de Toronto, Kirsten Hazan, alias Bambi, avec deux I, a fait paraître son album Infinity Club le 4 août dernier. Un album à l'ambition politique et émancipatrice sur groove de dance music. Nous l'entendrons en compagnie de la chanteuse londonienne de dancehall, Lady Leakes, sur ce titre orthographié à la jamaïcaine, Wicked Girl.
Let me tell you one thing I know. Like, said I want to take no info. Little bit of liquor and it ain't my fault. I'll be like, no, no, no. When I get twisted, anything goes. Drunk and belligerent, it's in tow. Next minute, my hands around your throat. Now you're getting choked. I saw wicked girl.
No, me no take chat. Girl, go on, but me a running out flat. Drag her by her hair, put her in a headlock. Now she bald headed, crying in a wig cap.
I saw wicked girl.
Me no lose my cool. If a boy want take girl for a fool, me will link up with him best friend too. Wine pony boy, make him get a good view.
I saw wicked girl.
You want see me pretty panty. My body thick, no me never lanky. Him so what a bam bam, let me sister Nancy. Them man a foolish like a shanty. Spin a boy head like a sip of brandy. Come me two dresses like a lamgy. Send shot to your dear mother like Bambi.
Let me tell you one thing I know. Like sin, I want to take no info. Little bit of liquor and it ain't my mo. I'll be like no, no, no. When I get twisted and the dingo. Strong from belligerence is in tow. Next minute my hands around your throat. Now you're getting choked, choked.
Me hardcore, it's my ship, them a jump on board. I'm 2-6, so no that can't cure. Her tune, they fling it in a one morgue. Like Sago Shell, so me never unsure. Jump on stage and get an encore. Me a bust it up like me never on tour. So she a the best for no foundation. Me a the highlight and me never contour. She a make up her face. Lick a dung, put a neck in her brace. Nutty girl best get in her place. Me run a dung like a Shelly and Reese. So pretty girl, how link a man bandate. Send him home broke when me spend up him wage. Thank me fool for the wine and steak. Then milk chili spear, sir.
Let me tell you one thing I know. Like, said I want to take no info. Little bit of liquor and it ain't my mo. I'll be like, no, no, no. When I get twisted, anything goes. Strong from belligerence is in tow. Next minute, my hands around your throat. Now you're getting choked, choked.
I'm on a wicked yalty. 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 I'm on a wicked yalty.
S'assoit juste en face, je pose ma tête contre la fenêtre. Putain, ce qu'on est bien lorsque l'on n'a rien à faire qu'à voir défiler l'univers plongé dans la nuit de l'hiver. Qu'éclaire quelques phares blafards dans le noir. Elle mange un yaourt et lèche le pot pendant qu'elle parcourt Madame Figaro pour avoir autant d'or et de cailloux tintinabulants. Sûr qu'elle a beaucoup d'argent. Je m'imagine dans son duplex, vautrer dans le luxe et le sexe.